Donc aujourd'hui, on a un invité spécial, pasteur Gilles Lapierre, qui est le directeur de l'Association des Églises Baptistes du Québec. J'étudie comme il faut. Il va peut-être démêler ça lui-même tout à l'heure. Et la raison pour laquelle je l'ai invité, c'est que d'abord, je l'ai rencontré pour la première fois en 2008 au Saguenay. Il y a une de ses filles qui vivait là-bas, à la Terrière, qui venait à notre église aussi. C'était Isabelle, hein, c'est ça. Et puis, à un moment donné, c'était tout dans l'histoire du cours ECR, puis des marches qu'on faisait. Puis on s'était rencontrés pour jaser de ça, puis c'est la première fois qu'on s'était vus. Puis, il en est resté quelque chose, hein. On s'est revus par après sur des tables d'organisation de toutes choses. Forum des évangélistes, on s'est vus à Sola, on s'est vus maintenant au REC surtout, on travaille... étroite collaboration là-dessus. Fait que c'est vraiment une bénédiction de l'avoir. Donc, la raison plus précise, vous savez, c'est dans cette église, ceux qui sont venus à la retraite des hommes cette année, on a abordé tout le sujet de la souffrance et c'était vraiment un moment très, très unique. Tu sais qu'une gang de gars, on était à 90, qu'on décide de se parler de ça, des problèmes de santé. Différents hommes parmi nous ont témoigné également de problèmes de santé. Et notre but comme Église, c'est de se faire une tête, de se donner une intelligence sur la façon d'aider les gens qui passent à travers des temps difficiles. Apparemment qu'on le sait, mais dans l'expérience de la chose, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne sait pas tant que ça, comment être habile, puis comment s'éloigner de nos manques d'habileté et de sagesse dans ça. Fait qu'on s'est dit, il n'y a rien comme en parler. Et un certain soir de la retraite, bien, c'est ce qu'on a fait là-bas, ça a été extrêmement béni. Vous savez, on va tous un jour ou l'autre, c'est certain, mourir, mais avant de mourir, on risque aussi d'être malade. Et il y a toute cette question de comment on réfléchit à ça, comment on se prépare, est-ce qu'on peut se préparer? Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité pasteur Gilles Lapierre pour venir nous parler de cette situation qu'il a d'ailleurs lui-même traversée dernièrement.
Merci, pasteur Réal. Pasteur Réal et pasteur Jeff sont devenus des amis personnels avec le temps, avec lesquels j'aime beaucoup passer du temps. Je suis heureux d'être devant vous. C'est un privilège d'être là, de vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu m'a fait traverser, pas à cause de mon choix, certains vont dire à cause de mon âge peut-être, mais c'est pas nécessairement ça. Pasteur Réal a parlé comment on aborde la souffrance, et je vais le traiter dans un contexte plus large. Comment on fait face aux épreuves? Les épreuves incluent la souffrance, mais les épreuves sont nombreuses. Il y en a de toutes sortes, et c'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait. Les épreuves font pas de distinction d'âge, font pas de distinction de sexe, font pas de distinction de conditions économiques, de race, homme ou femme, n'importe quoi. Qu'on soit ado, qu'on soit vieillard, on fait face à des épreuves. Les épreuves prennent beaucoup de formes. Pour certains, ce sont des épreuves économiques, perte d'un travail, on est ruiné. Pour d'autres, ce sont des épreuves amoureuses. On voit souvent des gens faire l'acte irréparable à cause d'un échec amoureux. Pour d'autres encore, ça va être des épreuves dans la famille, les parents avec les enfants avec les parents, entre couples, entre hommes et femmes. Dans les dernières années, ma femme et moi, on a vécu avec 3 personnes âgées à la maison, qui sont maintenant dans une résidence, 3 personnes de la famille de ma femme. Et on a été témoins avec eux comment, lorsque l'âge avance, la perte d'autonomie fait partie des épreuves de la vie. Enlever le permis de conduire à un homme pour le fun. On verra comment l'épreuve se passe. Sentiment d'autonomie. Alors, empêcher une femme, en tout cas, peut-être pas toutes les femmes, là, mais la mienne, empêcher une femme de faire son ménage toute seule. Il y a toutes sortes d'épreuves. Il y en a qui seraient contentes, là. J'entends des murmures. Peut-être que ça va être une épreuve pour le mari, non pour la femme. Les épreuves, quelles qu'elles soient, que ce soit dû à la maladie ou à autre chose, Les épreuves sont des tests de foi. Et à travers l'épreuve, il y a différentes réactions qu'on a. Et j'aimerais vous partager le texte de Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin. Père du ciel, on te rend grâce pour ton amour envers nous. On te rend grâce pour ta bonté, pour la parole que tu nous as donnée, pour cet accès à ton cœur à travers la parole et en même temps pour l'Esprit Saint que tu nous as donné pour la comprendre, la mettre en pratique. Père du ciel, je veux te prier ce matin en abordant ce texte, chacun pour chacun de nous, que l'Esprit Saint puisse non seulement nous aider à comprendre, mais nous aider à assimiler et vivre ta parole, peu importe les situations. Je te demande ceci à travers Jésus-Christ, ton Fils. Amen. C'est un texte qu'on peut lire rapidement. C'est un texte qui peut parfois pas avoir un sens très, très profond. Mais quand vient l'épreuve, tout d'un coup, il y a certains textes des Écritures qui passent du noir au blanc, du noir et blanc à couleur. Et parfois, dans certaines situations, on passe au 3D, où tout d'un coup, un texte devient non seulement une connaissance cérébrale, mais il y a quelque chose là qui vient nous chercher, qui vient nous interpeller. Dans le texte, on dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète ». J'aimerais juste parler premièrement de l'attitude quand on traverse une épreuve. Je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, ça aurait été suffisant de regarder comme un sujet de joie. Déjà, j'ai mon voyage à regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Le texte ajoute complet. Comme déjà, c'est un défi de demeurer joyeux dans le Seigneur dans l'épreuve, il ajoute le mot complet. Pour ma propre culture, je suis allé voir dans d'autres versions, et là, on ne nous dit pas d'être heureux, on nous dit d'être très heureux. Degré de difficulté. J'ai dit, je vais aller voir ailleurs encore, tout d'un coup, des fois. Ben non. Non seulement on nous dit de prendre ça de bon cœur, mais de très bon cœur. Énorme défi. Le mot épreuve peut être employé pour décrire des tentations. La tentation est une épreuve. Mais aussi pour décrire les difficultés qu'on vit. Parfois, les difficultés viennent parce que l'adversaire nous met la tentation devant nous, et là, on y réussit ou on y réussit pas. Parfois, Dieu permet des choses dans nos vies. Des fois, l'épreuve vient parce que les péchés des autres nous touchent. On est victime des péchés des autres. Parfois, cachons-nous le pas, on est l'auteur de nos propres problèmes. On traverse des épreuves parce qu'on s'est mis les deux pieds dans des plats. Et parfois, l'épreuve vient parce que Dieu veut mettre notre foi à l'épreuve. Et Dieu enlève pas tout. Dieu enlève pas tout ce qui se passe sur notre chemin. Et on aimerait ça que Dieu enlève toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, mais l'épreuve, ça fonctionne pas toujours nécessairement comme ça. Parce que l'épreuve fait partie de la croissance. Ça fait partie de la croissance. Dans l'original, on retrouve le mot « considérer ». Et ça fait référence à une évaluation intellectuelle, rationnelle, qui va produire une certaine attitude, qui va donner un certain comportement. Alors, il semble que la disposition du cœur fait la différence. Face à l'épreuve, souvent, ce qui arrive, on est plus une boule réactionnelle que de s'arrêter et de réfléchir. On réagit beaucoup plus qu'on réfléchit. Et certains vont réagir par la colère, certains vont réagir émotivement, par les pleurs, certains, ça va être l'implosion, la dépression, d'autres vont frapper quelque chose ou quelqu'un. On réagit différemment, mais usuellement, on fait ça avant de réfléchir. Ce que le texte nous dit, c'est, il dit « considérer ». Alors ici, considéré comme un sujet de joie parfaite. Et ici, le mot « sujet de joie » fait pas référence à un état d'âme, zen, tout d'un coup, très heureux, là. Ici, on parle pas, on jouit pas des épreuves. On va jouir après coup la croissance que l'épreuve donne dans notre vie. Et on va voir l'épreuve avec un œil complètement différent. Donc, les épreuves sont, pour certaines personnes, soit des obstacles à leur croissance, ou encore un tremplin pour grandir plus. Beaucoup de chrétiens, un jour un chrétien a abandonné notre église, ou il a abandonné le Seigneur, je devrais dire, et puis j'ai demandé « Pourquoi? » Ben il dit « Depuis que je suis chrétien, tout va mal. » Je peux comprendre pourquoi tout allait mal, mais lui, l'épreuve l'a enragé contre Dieu. Et souvent, j'ai entendu dans les commentaires de gens qui passent à travers l'épreuve, « Dieu est méchant. Dieu est pas juste. C'est pas correct ce qu'il me fait. » Comme si Dieu nous devait quelque chose. Donc, l'épreuve produit des sentiments, l'épreuve produit des réactions, et il faut faire la différence entre certains éléments qui sont problématiques. Regarder les épreuves comme un sujet de joie fait appel premièrement à notre réflexion, à la vision de la vie chrétienne, à notre vision de Dieu. Et ça va produire des sentiments. Sentiments de paix, selon la réflexion qu'on va avoir faite, sentiments de joie dans le Seigneur, selon les choses qu'on va avoir compris. On va regarder ce matin comment on peut arriver là. J'ai aucune idée quelle épreuve que vous vivez, si vous en vivez. Si vous n'en vivez pas, dites merci au Seigneur. Je vous prédis que ça va arriver. Parce qu'on vit entre Genèse 3 et Apocalypse 22. Donc, faites votre conclusion. On n'est plus dans le Jardin d'Éden, puis on n'est pas encore avec le Seigneur. Donc, les épreuves vont arriver. Maintenant, faut juste savoir et décider comment on va y faire face. Toujours face à l'attitude qu'on doit avoir, dans Hébreux, c'est écrit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. » Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il y a un but là-dedans. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Vous savez, moi j'aime particulièrement cette phrase-là. Et j'aimerais vous dire quelque chose, oubliez-le pas. La Bible assume notre humanité. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit qu'il ne se sentait pas correct de pleurer dans l'épreuve. Mais non. La Bible assume notre humanité, et ici, c'est comme si la Bible nous comprend en disant, c'est vrai qu'au début, c'est un sujet de tristesse, on pleure, c'est difficile. Mais ça produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ça me rassure, ça me console que la Bible assume qu'on est des êtres humains fragiles, on est des êtres humains émotifs, qui souffrent des choses difficiles. Mais ça n'exclut pas la première partie de ce que Jacques dit, de considérer comme un sujet de joie complet. Comment on se rend là? Est-ce que ça vient tout seul? Est-ce que ça vient naturellement? Non, ça vient pas naturellement. Et ça vient pas naturellement, même pour ceux qui sont plus vieux dans le Seigneur. En avril 92, hier soir, j'ai réalisé que ça faisait 4 ans. En avril 92, on m'a appris que j'avais le cancer. Merci. C'est juste pour voir si vous écoutiez. En avril 2012, on m'a appris que j'avais le cancer, un cancer de la prostate. Je ne sais pas si vous le savez, quelques-uns ici le savent, ils ont passé par là. Mais quand dans la même phrase, il y a le mot « cancer » et ton nom, c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre émotif, c'est un coup de tonnerre dans ta vie. Et c'est comme si... tout d'un coup, tout s'arrête, et c'est exactement ce qui est arrivé. Tout s'est arrêté. Souvent, dans l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, tout s'arrête. Tu vas au travail le matin, et on t'apprend que c'est ta dernière journée de travail. Tout s'arrête. Beaucoup de questions. On se sent perdu. Mettez l'épreuve que vous voulez. On se sent perdu. Et on était, ma femme et moi, et c'était un vendredi matin. Le samedi, j'avais une activité de prévue comme directeur de l'association, donc je suis allé à l'activité, mais vous savez, ma tête n'était pas là. Le dimanche matin, je devais prêcher dans une église pour remplacer le pasteur qui était en vacances. Et bon, j'ai considéré qu'à 24 heures d'avis, on ne se décommande pas, donc je suis allé prêcher. Mon message était déjà préparé parce que je l'avais prêché 2 semaines avant dans une autre église, ailleurs. C'est le privilège des prédicateurs visitants. Et vous savez, le texte que j'avais prêché 2 semaines avant, c'était Josué chapitre 1, les versets 6 à 9. « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. » Et là, en relisant mes notes, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit « Hey, c'est une bonne prêche, ça. » Parce que l'homme qui la lisait tout d'un coup n'était pas le même homme qui l'avait lu, qui l'avait prêché 2 semaines avant. L'homme qui l'avait prêché 2 semaines avant n'était pas dans l'épreuve. Et l'homme qui allait le prêcher ce dimanche matin-là, on venait de lui dire qu'il avait un cancer. Et vous savez, un cancer, c'est une sentence de mort. On pense comme ça. C'est naturel. Donc, je suis allé ce matin-là prêcher. Et vous savez, pendant ces 2 jours-là, j'ai perdu mes repères. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, peut-être quelques-uns comprennent, mais vous savez, vous avez peut-être passé des situations où on dirait que Dieu n'est plus là. On n'arrive pas émotivement à connecter avec Dieu. Spirituellement, je n'arrivais pas à prier. J'étais perdu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rouler dans la brume, de rouler, puis tout d'un coup, on tombe d'un nuage de brume? Et là, on perd tous les repères. On voit plus les lignes, on voit plus le fossé, ça arrive surtout en hiver, on voit plus rien. Et là, tout ce qu'on a envie de faire, c'est ralentir parce qu'on ne sait pas où on va se ramasser. Spirituellement, c'est ce que j'ai vécu. J'arrivais plus à voir Dieu, j'arrivais plus à connecter avec Dieu, j'arrivais plus à connecter avec mes émotions, j'arrivais plus à comprendre où j'allais. C'est comme si on m'avait mis en suspens dans le milieu de nulle part. Un sentiment vraiment bizarre, mais extrêmement difficile. Et ce matin-là, en relisant mes notes pour aller prêcher, et en relisant mon message, c'est comme si une grande main descendait du ciel puis venait me dire, « Gilles, je t'ai pas oublié. T'es peut-être perdu, mais je t'ai pas perdu. » Et c'est comme si la parole est revenue me donner un sens, est venue me rechercher pour me redonner une vision de la vie autre que juste le brouillard émotif et spirituel. Et on est parti, ma femme et moi, et ce matin-là, j'ai prêché juste pour moi et ma femme. Les autres pouvaient écouter, mais la prédication était juste pour moi et ma femme. On est sortis de là toutes les deux encouragées, de voir comment notre Dieu est un Dieu fidèle dans l'épreuve et comment Dieu nous rattrape quand on se sent perdu. 3 mois plus tard, on m'a dit que le cancer qu'on avait vu au départ était 10 fois plus gros et que là, il fallait une intervention immédiate. J'ai encore perdu mes repères. Des fois, vous pensez que les pasteurs sont meilleurs que les autres, hein? Crevez votre balloune. Les pasteurs sont des êtres humains comme les autres. On perd nos repères aussi, on est émotifs. Et ce matin-là, après être sorti du bureau, j'ai retourné, j'ai laissé ma femme à la maison et je me suis en allé au jardin botanique. C'est mon endroit de réflexion. Et là, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai fait tout ce qu'on pense être bon à faire. Et vous savez, encore là, je me sentais énormément perdu, émotivement et spirituellement. J'ai appelé un de mes amis. Les amis sont précieux dans ce temps-là. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un ami personnel, un autre gars que je considère un vrai body depuis 25 ans qu'on se suit. Et il est pasteur, donc je l'ai appelé, puis j'ai raconté ce qui arrivait. Et il m'a dit, Gilles, il dit, c'est intéressant, il dit, je suis en train d'étudier le psaume 23 pour dimanche. Psaume 23, psaume 23. Je me suis dit, veux-tu que je te le chante, le psaume 23? Je le connais, le psaume 23. Ça fait 40 ans que je le lis, le psaume 23. Et vous savez, des fois, on lance des clichés comme ça à ceux qui passe à travers des épreuves. Pasteur Réal me parlait de Romains 8, 28. C'est le dernier verset qu'on veut entendre. On le sait. On est tous perdus, on est tous émotionnellement perturbés, mais on le sait. Vous savez, un conseil que je peux vous donner. Si quelqu'un autour de vous passe une épreuve difficile, citez-lui pas en premier verset. Demandez-lui comment il vit ça. Ce qu'on a besoin, c'est de beaucoup plus parler que de se faire parler. S'il y a une chose qui est difficile, c'est de dire ce qu'on vit. Aidez votre ami ou votre, peu importe qui, à exprimer ce qu'il vit. C'est pas toujours beau. C'est pas toujours intelligent. C'est pas toujours dans une bonne ligne. Mais c'est ça que c'est. Et révéler la vérité du cœur, ça fait du bien. Et mon ami, après lui avoir parlé de mon cœur où j'en étais, mon ami m'a parlé du message qu'il préparait. Et il dit, tu sais, Gilles, il dit, dans le psaume 23, quand c'est écrit, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a frappé, et c'est comme si je n'avais jamais lu le psaume 23. Il m'a dit, tu sais, Gilles, la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas écrit comment longue elle est. C'est pas écrit qu'il y a une lumière au bout du tunnel. C'est pas écrit que tu perdras pas des morceaux là-dedans. C'est pas écrit qu'il y a des amis qui vont marcher avec toi là-dedans. C'est pas écrit que tu pleureras pas. C'est pas écrit que même tu vas en sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Non, je me dis, oh, non, j'ai jamais vu ça, moi. C'était la première fois que je m'attardais à réfléchir à tout ce qui n'est pas écrit que je veux avoir. Moi, dans ma vallée de l'ombre de la mort, dans ma maladie, ou mettez dans l'épreuve, face à un problème financier, problème de couple, problème professionnel, problème amoureux, problème n'importe quoi, on veut savoir comment ça va finir. On veut voir une lumière au bout du tunnel. On veut les ressources. Je veux que le médecin me guérisse. Je veux retrouver un autre travail. Je veux avoir les ressources financières. Je veux que mon mari ou ma femme cesse de faire ça. Je veux que ça aille mieux avec mes enfants. Oui, mais ton cœur là-dedans, il est comment? Et là, il dit, tu sais, Gilles, la seule chose qui est écrite dans le psaume 23, c'est que Jésus est là. Ah, pourtant je le savais. Mais là, dans ce moment-là, là, j'avais besoin de me le faire dire. Malgré tout ce qui n'est pas écrit dans le psaume 23 qu'on veut, la Bible dit que Jésus nous accompagne, sa houlette et son bâton nous rassurent. Mais là, j'avais un autre problème à faire face. J'étais pas rassuré. Comment ça se fait, moi, pasteur, directeur d'association, je suis chrétien depuis 40 ans. Je devrais savoir mieux. Je devrais connaître mieux. Et là, tout d'un coup, non, honnêtement, Jésus me rassurait pas. Ce qui me rassurait, c'était la guérison du cancer. Ce qui peut nous rassurer, c'est de trouver un autre travail, trouver les ressources financières, trouver que notre vie de couple s'améliore, qu'avec nos enfants, nos parents, ça aille mieux. Ça va nous rassurer. Mais seulement la présence de Jésus. Et là, j'ai dû rentrer en dedans de moi et me poser la question, jusqu'à quel point la seule présence de Jésus fait la différence dans ma joie? Jusqu'à quel point? Vous savez, quand tout va bien, qu'on lit notre Bible, fait notre petite vie chrétienne, ordinaire, c'est facile de faire confiance. C'est quand on perd tout, qu'on n'a plus de repères, que là, on se pose la question, jusqu'à quel point Jésus est ma paix? Jésus est ma joie? Et je suis obligé d'admettre qu'à ce moment-là, non, Jésus n'était pas ma paix. C'est terrible d'entendre ça d'un pasteur. Je suis obligé de l'avouer. Parce que j'étais complètement perdu, j'étais encore une fois dans le trouble complet, et l'épreuve venait m'enlever ce que je voulais avoir, ce que je voulais garder. Parce que je ne voyais pas de lumière au bout du tunnel, parce que je ne voyais pas de solution, l'épreuve m'empêchait de voir ces choses-là. Et cet après-midi-là, après avoir parlé avec mon ami, j'ai fait un choix de remettre ma foi dans la seule présence de Jésus. Si la Bible dit que sa houlette et son bâton me rassurent, qu'est-ce que je vais faire pour que sa houlette et son bâton me rassurent vraiment? Quand j'ai pas les réponses que je veux, quand mes besoins sont pas comblés comme je le veux, et à ce moment-là, cet après-midi-là, le psaume 23 a pris tout un autre sens. Il est devenu en trois dimensions. Est-ce que Jésus est assez puissant dans ta vie? Est-ce que ta foi en Jésus est assez puissante pour que même dans l'épreuve, quelle que soit ton épreuve, Moi, la mienne était la mienne, la vôtre est la vôtre. Quelle que soit ton épreuve, est-ce que Jésus, sa seule présence, sa houlette et son bâton, seulement le fait que Jésus marche avec toi, est-ce que ça représente ta paix et ta joie? Et là, je peux comprendre l'apôtre Jacques quand il dit, quand il parle de les joies complètes, voir les épreuves comme un sujet de joie complète. Cet après-midi-là, je me rappelle, vous savez, quand je suis venu au Seigneur à 19 ans, j'ai fait un pas dans le vide en plaçant ma foi dans le sacrifice que Jésus avait fait pour moi à la croix. Je voyais rien, j'étais tout seul et je lisais la parole et la parole m'a confronté, la parole m'a montré mon péché et j'ai fait un pas de foi dans le vide en croyant que ce que Jésus a fait, il l'a fait d'une façon complète et tout ce que j'ai à faire, c'est d'y accorder ma foi pour être sauvé. Et c'est un pas de confiance. Et cet après-midi-là, dans le jardin botanique, j'ai refait ce pas de confiance. Jésus, tu vas être le seul à me donner la paix, que je meure ou que je vive, peu importe ce qui arrive. Je veux que tu sois le seul à me donner la paix. Est-ce qu'il reste des questions? Il reste beaucoup de questions pas répondues. Et dans ce pas de foi-là, j'ai accepté d'abandonner mon droit d'avoir des réponses, mon droit de poser des questions, et j'ai décidé de faire confiance. Et vous savez, ça a changé toutes sortes de choses. Et c'est pour ça, il dit ici, « Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Comment la joie du Seigneur peut nous garder, nous envahir à travers des moments difficiles, à travers des moments qui nous semblent extrêmement longs, toujours face à notre attitude. Il sait pourquoi nous ne perdons pas courage. L'apôtre Paul parle de ça. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions, en passant, celui qui parle des légères afflictions ici, c'est l'apôtre Paul. Si vous faites un peu le survol de ce à travers quoi il a passé, de toutes les misères, il a été laissé pour mort, lapidé, peu importe, toutes sortes de choses, c'est lui qui parle des légères afflictions. Je pense qu'il y avait une perspective qu'on a avantage à garder. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Donc, tout dépend où on met nos yeux dans l'épreuve. Si on met nos yeux sur les ressources visibles, ça se peut qu'ils ne soient pas au rendez-vous ou qu'on soit découragé. Ça se peut qu'on implose émotivement par en dedans. Ça se peut qu'on manque de foi en Dieu. Mais si on met nos yeux sur ce qui est invisible, sur Jésus qui nous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus dont la houlette et le bâton nous rassurent, et si on place notre foi dans ce que lui est en train de faire et de nous accompagner dans notre vie, toute notre perspective va changer. Est-ce que l'épreuve va changer? Vraiment pas nécessairement. Probablement pas du tout. Mais notre attitude va changer. Notre cœur va changer. Notre vision de la vie va changer. Et notre vision des choses va changer. Par la grâce de Dieu, je suis devenu en rémission. 2 ans plus tard, on m'a appris que j'avais un autre cancer. Des ganglions cette fois-ci, le taux de survie. Cancer de la prostate, le taux de survie est de 95 %, mais le cancer des ganglions, le taux de survie est de 50 %. Et le cancer était au stade 4. Après ça, c'est la phase terminale. Donc, devinez quoi? Je suis retourné au jardin botanique. Mais vous savez, je suis revenu à 2 ans en arrière, à mon pas de foi avec Dieu, et j'ai relu le psaume 23, et je me suis réengagé à marcher par la foi, et je me suis réengagé à ne suivre que celui qui me donnait la paix intérieure. Et par la grâce de Dieu, j'ai vécu une autre émission, et Dieu a épargné ma vie, et j'en suis reconnaissant pour le bénéfice de ma femme et mes enfants. Mais quand on parle de cultiver l'attitude, Warren Wiersbe, qui est un commentateur des Écritures, a écrit ceci. « Nos valeurs déterminent notre évaluation des choses. » Lisez bien attentivement. « Si nous donnons plus de valeur au confort qu'au caractère, les épreuves vont nous irriter. Si nous donnons plus de valeur au matériel qu'au spirituel, on ne pourra pas être joyeux dans l'épreuve. Si nous vivons seulement pour le présent et si nous oublions le futur, lorsque les épreuves arriveront, ça nous rendra amer au lieu de nous rendre meilleur. » Et ce sont des conséquences que l'épreuve fait. Dans la vie de certains chrétiens, l'épreuve les rend amers, fâchés contre Dieu. Par contre, pour d'autres, ça donne un autre effet. Lorsque par la foi, on choisit de s'appuyer sur Jésus qui nous accompagne à travers nos épreuves et Jésus qui fait toute la différence. Il dit dans le verset 3, c'est quoi le but? « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Un autre mot pour patience, c'est le mot « endurance ». Et on réalise à quel point on a besoin de patience et à quel point cette patience-là fait une grande différence dans notre vie. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, ou lorsque Dieu permet l'épreuve, que ce soit Dieu qui nous mette à l'épreuve ou que ce soit Dieu qui la permette en ne l'empêchant pas, Dieu veut qu'on grandisse, que l'épreuve vienne de là où vous voulez, de peu importe la source. Il faut la traverser, il faut y faire face. Et il faut regarder qu'est-ce que Dieu a pour nous autres. Dans Hébreux, voici ce que l'auteur dit encore, parlant de Moïse. « Qui, devenu grand, refusa d'être appelé la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur ce qui est invisible, la rémunération. » C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et là, ce qui va faire toute une différence, c'est là où on place nos yeux. Quelle que soit l'épreuve, là où on place nos yeux. Et on a cette tendance naturelle comme être humain à placer nos yeux sur des ressources visibles. On est des êtres humains. Avouons-le, on est des êtres humains. Quand les ressources visibles ne sont pas au rendez-vous, on se décourage, on implose, avec toutes sortes de réactions émotives qui sont disproportionnées. Alors l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? L'épreuve produit la patience. La patience, c'est le produit de la foi. Sans la foi, il n'y a pas cette patience-là, la patience d'attendre l'œuvre de Dieu. Et la foi produit la croissance et la puissance. C'est une règle de trois. L'épreuve est le produit de la patience. La patience est le produit de la foi. L'épreuve produit, c'est le produit de la patience. La patience est le produit de la foi. Et la foi produit la croissance et la puissance. Et ce n'est pas une question d'être un super spirituel. C'est un principe biblique. C'est un principe biblique que Dieu nous amène à voir, à mettre en application. Plusieurs fois, j'ai réfléchi, pourquoi Dieu a permis 2 cancers. Qu'est-ce que j'ai pas compris au premier? Mais une des choses que j'ai appris après 40 ans de vie chrétienne, c'est aller beaucoup plus creux dans ma dépendance envers Dieu. Quand il n'y a plus rien qui fonctionne, quand l'épreuve finit pas, et peut-être il y en a ici qui traversent des épreuves qui non seulement sont lourdes, mais qui finissent pas, qui ne disparaissent pas, qui ne s'estompent pas. La foi produit la croissance et la puissance. Jacques, dans le chapitre 1, un petit peu plus loin, verset 12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Le mot est encore là. Patiemment la tentation. Pourquoi patiemment? Parce qu'on a tendance à s'irriter après Dieu. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourtant, je vais à l'église, je donne ma dîme, je prie, je fais mon culte. Pourquoi Dieu me fait ça? Quand on dit « Pourquoi Dieu me fait ça? » C'est comme si Dieu me devait quelque chose. Vous savez quoi? Dieu ne nous doit rien. Rappelez-vous de ça. Dieu ne nous doit rien. Déjà d'avoir sa grâce, d'être sauvé, c'est un grand privilège. C'est nous qui lui devons tout. C'est nous qui lui devons la vie. C'est nous qui lui devons la vie éternelle. Dieu ne nous doit rien. Si dans sa souveraineté, il choisit de multiplier l'épreuve, si dans sa souveraineté, il choisit que l'épreuve ne cesse pas, si dans sa souveraineté, il choisit que les ressources n'arrivent pas, Dieu est au courant. Et à partir du moment où on prend conscience que Jésus seul peut nous donner cette joie-là dans l'épreuve, pour autant qu'on accepte que je suis content que Jésus marche avec moi dans ma vallée de l'ombre de la mort. Peu importe la longueur, peu importe si j'en sors, peu importe si je perds des morceaux, Jésus est avec moi. Et vous savez, quand on parle de vivre l'Évangile, quand on parle de vivre l'intimité de Jésus, bien ça va aussi dans cette dimension-là. Vive Jésus dans l'épreuve, vive la présence de Jésus dans l'épreuve, vive l'Évangile qui dit « Je ne t'abandonnerai point, je vais marcher avec toi. Es-tu prêt à me faire confiance? Peu importe où ça te mène, es-tu prêt à me faire confiance? » Alors, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise. Et dans Romains encore, il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Une autre règle de trois ici. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, une règle de trois. Tout ça s'enchaîne. L'épreuve produit la persévérance quand on la traverse avec Jésus. Mais quand on la traverse sans Jésus, l'épreuve produit le découragement. Et là, on s'excite pour trouver toutes sortes de ressources. Mais sans Jésus, c'est peine perdue. Ça produit la victoire et qui produit aussi l'espérance. Une autre question, verset 4, qui dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. » Nous, on voudrait être parfaits, accomplis, sans faillir en rien, sans épreuve. L'épreuve n'est pas vraiment le processus de croissance qu'on choisit. Plusieurs fois, j'ai dit, donnez-moi un livre, un chapitre, moi le lire, puis moi le savoir après ça. Ça serait tellement facile d'apprendre en lisant un chapitre d'un livre, ou s'il faut trois livres. Mais non, des fois, Dieu nous fait passer par l'épreuve du feu. Et Dieu nous fait passer par un autre chemin. Alors, qu'est-ce que c'est cette œuvre-là que Dieu a pour nous? De quelle œuvre parle-t-il? Et encore là, l'œuvre dans ma vie que Dieu voulait accomplir n'est probablement pas la même que celle dans ta vie. J'ai réalisé à quel point Dieu dans ma vie voulait m'apprendre la dépendance. On a appris, ma femme et moi, à dépendre de Dieu dans différents aspects de notre vie. Mais pour la première fois de ma vie, de notre vie, ma femme devait vivre dans la dépendance pour savoir si elle allait être veuve ou pas. Mes enfants ont dû apprendre à vivre dans la dépendance pour savoir si elle allait perdre leur père ou pas. Moi, j'ai appris à vivre dans la dépendance de savoir si je vais vivre ou pas. Et en passant à mourir, ce n'est pas une si mauvaise option que ça, quand on sait qu'on va voir le Seigneur. Mais on a de la peine pour ceux qui restent. On ne veut pas être ingrat. Allez voir, et ça m'a permis de comprendre, bien comprendre l'apôtre Paul quand il dit « Je suis déchiré entre les deux. Restez avec vous autres ou allez trouver le Seigneur. » Mais bon, le Seigneur a décidé que j'allais être encore ici pour un bout de temps. Quelle œuvre de Dieu veut apprendre? Quelle œuvre Dieu veut-il t'apprendre? Et pour un instant, j'aimerais juste que tu réfléchisses. Est-ce que, présentement, tu vis des choses qui sont difficiles à n'importe quel niveau, professionnel, familial, santé, amoureuse, scolaire? Nommez-les. Prends juste un instant pour nommer la tienne. La réaliser devant Dieu. Seigneur, ce que je trouve dur de ce temps-ci, c'est ça. Et j'en vois pas le bout, j'en vois pas la fin. La parole nous montre que c'est humain de pleurer. C'est humain d'avoir cette souffrance-là de cœur. Mais la parole nous montre qu'il y a une solution divine à cet état d'âme. Il y a une solution divine. Malheureusement, certains croyants, après avoir avancé et grandi spirituellement, les épreuves et les difficultés produisent la paralysie spirituelle, de l'apitoiement sur soi-même, du nombrilisme, de l'amertume, Les plaçant dans un état spirituel, il faut leur donner les mêmes soins qu'un bébé spirituel. La raison, même si on le sait intellectuellement, spirituellement et émotivement, on ne regarde pas Jésus. On regarde aux valeurs qui ont été frappées. Warren Wiersbe parlait tantôt, parfois l'épreuve vient frapper nos valeurs. Si nos valeurs sont placées, dans le matériel et que tout d'un coup on perd notre job et qu'on n'a plus d'argent, si nos valeurs sont placées dans le désir d'être aimé et qu'on vit une difficulté amoureuse, et vous savez, on a tous de ces idoles, ces petites idoles qu'on cache à l'intérieur de nous, qui portent toutes sortes de noms. Mais parfois, Dieu vient frapper en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu vient frapper notre idole à travers l'épreuve? Et c'est là que la douleur arrive. On réalise que en quoi consiste cette œuvre-là, on réalise que Dieu veut nous faire grandir. Mais encore faut-il marcher avec lui, encore faut-il le suivre avec lui. Vous savez, comparez-vous pas à l'épreuve que j'ai vécue, c'est la mienne. Réfléchissez à la vôtre. Et quand on réfléchit à l'épreuve, on se rend compte que nos problèmes sont les épreuves. La solution vient dans la présence et la souveraineté de Jésus qui va procurer une paix intérieure, qui va procurer une joie, une attitude différente et un fruit de maturité. Est-ce que ce matin, tu peux dire que Jésus vient donner, vient combler, vient te permettre de vivre cette paix spirituelle, peu importe ce que tu es en train de passer à travers. Et la paix spirituelle, c'est cette joie complète, c'est être très heureux de ce que Dieu est en train de te faire passer. Très heureux, pas parce qu'on jouit de la souffrance, mais très heureux parce qu'on voit Dieu à l'œuvre dans notre vie et très heureux parce qu'on vit d'une façon pratique l'accompagnement de Jésus jour après jour. Devant l'épreuve, identifie le problème de ton cœur. Colère, et employons les vrais mots. Colère, amertume, découragement. Quelle valeur est confrontée? Quelle est la perspective biblique qu'il faut que j'adhère, à laquelle il faut que j'adhère? Qu'est-ce que la Bible me dit? Et en passant, si jamais tu passes une épreuve et puis quelqu'un te cite Romains 8, 28, fâche-toi pas. Embrasse-le ou embrasse-la. Et après ça, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? C'est quoi les bonnes choses que Dieu veut me faire passer à travers? On ne les découvre pas tout de suite. Je vous assure que quand j'étais à l'hôpital, il y avait un certain nombre de choses que je devais décanter dans ma tête. Quand on est dans les problèmes financiers, quand on a des problèmes de couple, etc., etc. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'apprendre? Et comment la parole de Dieu va t'aider? J'oublierai pas ce matin-là, et c'est très spécial dans ma tête, j'oublierai pas ce matin-là où j'ai relu mes notes avant d'aller prêcher, et où j'ai vu comme si Dieu me parlait à travers les notes que j'avais moi-même préparées. Et c'est comme si Dieu m'avait fait préparer des notes de message pour un certain moment donné où j'aurais besoin de me les remettre au visage. Mais j'ai vu la main de Dieu descendre. J'ai vu l'amour de Dieu venir me prendre. Pas enlever le cancer. Changer mon cœur. Changer mon cœur. Changer ma vision. Changer la vision des choses et réfléchir d'une façon biblique et positive sur qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai à céder? Je suis un gars qui a toujours été au contrôle des choses. Je suis habitué de donner une direction. Je suis habitué d'avoir des gens que j'amène dans une direction. Même avant d'être pasteur, j'étais coordonnateur dans un centre hospitalier. Donc, j'avais des gens avec qui je travaillais, que je donnais une coordination. Mais là, je n'en avais plus. Là, je n'étais plus capable de diriger rien. Il fallait que je laisse Dieu diriger. Es-tu prêt dans l'épreuve à laisser Dieu diriger, à juste le laisser t'accompagner dans la vallée de l'ombre de la mort et à marcher avec toi, et toi à trouver ta joie dans le seul fait que tu y prends la main. Ce seul fait-là, c'est un grand pas de foi, c'est un grand pas de foi spirituel, mais qui change la vie complètement. J'aimerais te laisser avec cette pensée-là, frères et sœurs. Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit pas la fin de nos épreuves. Mais nous, on lui doit tout. Entre autres, la croissance à travers l'épreuve. J'aimerais t'encourager, peu importe si tu vis des choses difficiles ou pas, dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a Jésus. Il n'y a probablement pas tout ce que tu voudrais. Il n'y a probablement pas toutes les sorties que tu voudrais. La longueur n'est probablement pas selon ce que tu souhaiterais. L'accompagnement des ressources n'y est probablement pas. Mais si tu es prêt à mettre ta foi dans la seule présence de Jésus et à y trouver ta joie, l'épreuve finira pas, mais l'épreuve va changer de couleur. Ton cœur va changer de couleur et le résultat va aussi être à la gloire de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Père du ciel, on te rend grâce pour ta bonté, ta miséricorde. Et oui, face à ce passage-là, on te rend grâce aussi pour les épreuves. Père, je veux te prier ce matin pour quiconque traverse un moment difficile dans sa vie. Père du ciel, je te prie par la puissance de ton Saint-Esprit de te révéler à travers ton amour, de te révéler à travers les Écritures et de te révéler à travers la foi qu'il peut placer en toi. Seigneur Jésus, je te demande de consoler. Je te demande aussi de changer cette perspective de douleur en perspective de joie complète, le fait que tu nous accompagnes, que tu es là. Père du ciel, merci même pour les épreuves. Et c'est en Jésus-Christ qu'on t'a prié. Amen.